Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des jeudis de l'économie. Plus de 4 mois après le début des émeutes, les chantiers de démolition ont commencé ou vont commencer pour plusieurs infrastructures ou entreprises détruites ou saccagées. Alors existe-t-il un marché de la démolition? Quelles sont les contraintes de ce type d'activité? Quelles sont les entreprises qui peuvent s'en charger? C'est le thème de ce jeudi de l'économie et nous sommes en compagnie de Nadir Boufnesch, le président du cluster Ecotrade. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
De Franck Olivier de la société Démolition Désamiantage NC.
Bonjour, merci.
Et de Hiro Mataliano de l'entreprise EMC Recyclage.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Un premier tour de table si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter chacun votre entreprise et ses activités? Nadir Boufnesch d'abord, vous représentez un cluster en réalité. Hein.
Oui, donc je suis le président du cluster Ecotrade qui existe depuis 2009. Et nous avons été interpellés dès le début des émeutes, après les émeutes, pour justement mettre en place un groupe de travail pour tout ce qui est déchets, filières réglementées.
Donc vous représentez une trentaine d'entreprises qui sont spécialisées dans le traitement de ces déchets de démolition?
Voilà, une trentaine d'entreprises et on fait partie en même temps du FCBTP, qui est la fédération du bâtiment, qui est aujourd'hui qui est liée avec Ecotrade.
Alors Franck Olivier de la société Démolition Désamiantage NC, vous faites du désamiantage essentiellement ou alors, pas seulement?
On fait de la démolition et avant la démolition, effectivement, on est susceptible de faire du désamiantage ou toutes sortes de dépollutions avant curage ou tout simplement des démantèlements. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de la déconstruction avec de la dépollution en amont.
Et Hiro Mataliano, l'entreprise EMC Recyclage?
Donc nous, on est le cœur de métier de la société EMC, c'est la collecte et le traitement des déchets, principalement métalliques, mais d'autres types de déchets. Et on a une branche également qui fait de la déconstruction.
Voilà, parce que la déconstruction, c'est lié également à la démolition, le démantèlement, le traitement des déchets. C'est en fait un sujet assez vaste. D'abord, est-ce que les uns et les autres, vous pouvez nous dire quel est aujourd'hui quels sont les besoins en démolition? On sait que des centaines d'entreprises, des centaines d'infrastructures publiques ont été détruites par le feu ou endommagées ou saccagées. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien doivent être démolies complètement? À quel moment est-ce que les diverses entreprises vont devoir intervenir?
Donc, suite au groupe de travail qui a été mis en place avec la province sud, la CCI et Ecotrade, on a répertorié environ 700 bâtiments qui ont été incendiés, plus ou moins, dont 500 à peu près à 100% et le restant à moitié, quoi. Donc ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises ou de sociétés à démanteler. C'est pour ça qu'Ecotrade et puis le FCBTP, tout de suite, on a mis en place ce groupe de travail pour répertorier toutes les entreprises susceptibles de déconstruire et relancer l'économie un petit peu du pays.
Les entreprises, il y a également les écoles, un certain nombre d'infrastructures publiques. Là aussi, c'est vous qui allez vous en charger, enfin vos différentes entreprises?
Oui, oui, bien sûr, que ce soit une infrastructure publique ou privée, ça ne change pas au niveau des méthodologies de déconstruction et de ce qu'il faut faire pour la déconstruction. Donc oui, tout type de bâtiment.
Donc ça va faire beaucoup de travail, effectivement. À quel moment intervient la démolition proprement dite? Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes qui doivent être franchies. Comment est-ce que vous procédez? Il y a d'abord un état des lieux, vous devez vous rendre sur place, il faut visiter. Qu'est-ce qui intervient en premier quand il y a un chantier comme celui-là?
Alors oui, effectivement, en amont ou après les sinistres, on est susceptible d'aller visiter sur place. Hein. On se rend compte aussi du malheur de ce que les gens ont subi. On rencontre les exploitants, on rencontre les propriétaires. Et on fait un état des lieux en estimant, sans avoir des premiers diagnostics, un volume de travail en heures, en volume de déchets aussi, qui a aussi une conséquence non négligeable sur le prix des déconstructions. Et ensuite, on établit un devis, on demande aussi des préconisations, comme le diagnostic amiante en amont de la déconstruction. Et après, il y a tous les experts qui interviennent pour la partie diagnostic béton, savoir si on maintient certains murs, certaines poutres, certains poteaux, pour définir exactement quel est le cahier des charges qui va être mis en place sur la démolition.
Donc, Ecotrade et la province et le FCBTP, nous avons mis en place une charte de bonnes pratiques, justement, pour aider les entreprises qui vont démolir, d'avoir un peu un règlement intérieur pour pas faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est important. Et ensuite, on a pu mettre en place avec la province sud une délibération qui était capital pour justement sensibiliser, responsabiliser les acteurs qui vont démolir, comme quoi que tous les pollueurs et payeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nomme une entreprise pour détruire une société qui a été incendiée, il faut savoir que cette entreprise, ce n'est pas une entreprise qui est dans le collimateur de la province ou de la DIMEC, ça sera la maîtrise d'œuvre ou le propriétaire du bâtiment.
Et alors, quand vous faites un état des lieux, vous me disiez tout à l'heure, vous devez aussi, il y a une volonté de sauvegarde de l'environnement, enfin de réutilisation, vous devez faire le point avec ce qui peut ou non être récupéré et où il faut ensuite envoyer ces objets-là quand vous les avez repérés.
Oui, ça fait partie du diagnostic initial, de pouvoir évaluer les déchets qui sont contenus, les déchets de structure, de voir ce qui peut être réemployé. Donc là, c'est plus un réemploi de certaines parties des matériaux. Et après, en fonction de la nature des déchets qui sont sur les sites, ils vont être soit éliminés, enfouis, ou revalorisés, ou recyclés. Voilà.
Ça reste quand même un chantier traditionnel, hein. Il y a les principes généraux de santé et sécurité au travail et les diagnostics en amont qui sont faits. On respecte le code du travail, on respecte le code de l'environnement et aussi le code de la santé publique, puisqu'on doit aussi abattre les poussières pour diminuer au maximum toute la pollution environnementale autour du chantier.
Alors vous parliez d'un code de bonne conduite pour les entreprises. Est-ce qu'on peut s'improviser démolisseur ou est-ce que c'est vraiment un métier particulier? Est-ce que vos entreprises sont les spécialistes et les seuls légitime pour pouvoir le faire, ou est-ce qu'aujourd'hui n'importe quelle entreprise de bâtiment, de construction peut s'improviser avec du matériel démolisseur? Comment vous voyez les choses?
C'est quand même mieux de faire appel à des sociétés qui sont spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ont le matériel, les compétences et le savoir-faire. Maintenant, on ne dit pas qu'on est les seuls et uniques à pouvoir le faire. Bien sûr que certaines entreprises du BTP peuvent s'y mettre. Et on peut comprendre dans la situation actuelle que tout le monde a besoin de travailler. Donc ça, c'est des choses qu'on comprend parfaitement. Mais c'est pour ça que la délibération faite par la province sud encadre les choses pour que ça soit fait de manière respectueuse de l'environnement. Donc toutes les réglementations, toutes les lois s'appliquent, plus cette délibération qui met le point en particulier sur la gestion des déchets. Sachant qu'on arrive quand même dans des bâtiments sinistrés qui peuvent avoir contenu certains déchets qui, après avoir été incendiés, deviennent polluants. Donc il y a quand même une méthodologie de travail à appliquer et il faut y veiller, sachant que le propriétaire reste de toute façon responsable de ce qui se passe sur son site.
On parlait de... Oui, Franck-Olivier.
Ah, merci, Hiro. Hein. Effectivement, il y a toute la partie méthodologie, mais il y a aussi la partie gestion des coûts. Et aujourd'hui, les déchets ont un coût. Est-ce que des entreprises qui n'ont pas l'habitude de gérer des déchets sur des démolitions ont été capables d'estimer suffisamment en amont la plus-value des coûts sur les déchets spéciaux ou sur les déchets dangereux? Parce que démolir un bâtiment de 1000 m², c'est simple, on met des coups de pelle dedans. Si on commence à rentrer dedans et trier les éléments qui sont à revaloriser ou trier les déchets dangereux ou encore les déchets vraiment réglementés dans la filière Trécodec, ben là, on se rend compte qu'il y a un gap en termes de coût du chantier qui est à prendre en compte en amont et pas après avoir fait la démolition.
Et ça, c'est obligatoire de passer par cette étape.
Oui, donc il y a un sujet qui est important, c'est quand même les assurances. Le propriétaire du bâtiment qui va nommer l'entreprise à démolir, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait un contrôle en amont des volumes estimés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant démolition, il y a 3 sociétés qui sont... Pour moi, une obligation de la visite du chantier, c'est donc Trécodec, parce qu'elle fait partie des 8 filières réglementées de la province sud. Il y a Gadji, CSP. Pourquoi? Parce que le casier de tout ce qui est déchets des cendres, c'est Gadji qui a aujourd'hui la responsabilité et qui décide de prendre oui ou non le déchet. EMC pour la ferraille. Donc ça nous permet, en ayant ces 3 acteurs en visite de chantier, de définir des ratios de cendres, des ratios de ferraille et des ratios de tout ce qui est les filières réglementées. Comme ça, ça donne quand même une sensibilité et quelque chose de réel pour tout ce qui est déchets à recycler ou à revaloriser.
Mais alors, globalement, ces déchets, certains vont être réutilisés dans la phase de reconstruction. ou est-ce qu'ils vont être tous réutilisés autrement, ou comment ça va se passer ?
En fait, tout dépend le degré de sinistralité du bâtiment. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments qui sont complètement à plat, qui sont complètement comme un flanc qui est retombé sur lui-même. Donc là, c'est très dur et très compliqué de réutiliser. Après, si on parle de réutiliser les dalles qui restent, qui sont en place, si des diagnostics permettent de réutiliser ces dalles, ben, ça sera reconstruit par-dessus. Aujourd'hui, c'est très compliqué sur un bâtiment sinistré en totalité par incendie de dire on va pouvoir revaloriser sur la reconstruction. Par contre, il y a des bâtiments qui sont partiellement sinistrés ou qui ont été juste saccagés. Et là, effectivement, il y a un gros travail de tri en amont qui permet, pourquoi pas, de récupérer jusqu'à 30% des matériaux. Et sur une revalorisation avec des métaux, on peut arriver jusqu'à 90% de revalorisation avec une revalorisation à l'export.
Alors voilà, l'export, ce qui n'est pas réutilisé... Ça va être, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça va être, il y a Gadji, il va y avoir de l'enfouissement, il va y avoir de l'export également. Comment ça se passe ?
Oui, les déchets, en fonction de leur nature, vont avoir soit des exutoires locaux pour de l'élimination, comme sur Gadji, ou alors du traitement local pour de la revalorisation, ce qui est un petit peu notre cas, sur les déchets métalliques qu'on va préparer puis exporter et qui vont être traités in fine par des aciéries et refaire des produits neufs. Donc il y a cette revalorisation. Et puis il y a la réutilisation dont on parlait tout à l'heure, où là c'est réutiliser l'objet pour sa fonction initiale.
On parle de crâne d'amiante, évidemment, dès qu'on parle de bâtiment. Vous faites du désamiantage dans tous les cas où certains bâtiments aujourd'hui en sont exempts, dans ceux notamment qui ont été sinistrés ?
Aujourd'hui, le diagnostic amiante est obligatoire depuis 2007, donc que ce soit un chantier de sinistré ou un chantier de démolition normale. Et si ça peut rassurer les gens, sur énormément de cas, on se retrouve, et je pense qu'autour de la table, ils peuvent en témoigner, on se retrouve avec des bâtiments, même avant 2010, qui sont sans amiante. Donc aujourd'hui, effectivement, l'amiante est une grosse problématique pour nos salariés, parce que c'est quand même l'employeur qui est responsable vis-à-vis de la 211-CP, qui est la loi sur l'amiante en Calédonie. Mais on est... rassurés avec beaucoup de diagnostics qui sont revenus négatifs, donc sans amiante. Après, effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des bâtiments amiantés. Et là, auquel cas, il faudra faire intervenir une société des amiantages.
Voilà, quand vous en trouvez, vous faites quoi ? Alors, vous arrêtez tout, le temps que quelqu'un vienne pour désamianter ?
Alors, théoriquement, il n'y a pas besoin d'arrêter, puisqu'on a fait le diagnostic en amont. Donc, si les choses sont bien faites, on fait le diagnostic. 15 jours, 3 semaines après, on reçoit les résultats. Et ensuite, on agit en fonction, on confine tout. Et on enlève les éléments, et si malheureusement tout est tombé en vrac, ben on se retrouve avec des volumes et des tonnes de déchets envoyés vers la Nouvelle-Zélande. On a 2 ou 3 sociétés sur le territoire qui font de l'export de déchets amiantés ou plombés, et effectivement ben ça fait monter la facture qui au bout du compte est pour les assurances et pour le maître d'ouvrage, parce que si la couverture des assurés n'est pas suffisante, ben en fait ça sera directement impacté sur le portefeuille de l'assuré.
Donc il y a l'amiante, mais il y a le point des eaux usées, il y a le point de l'air. Aujourd'hui, dans la démolition, la déconstruction, il y a quand même des paramètres à mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit quand même boucher les réseaux d'eau, parce que tous les déchets, dès qu'il pleut ou dès qu'on arrose pour éviter la poussière, donc tous ces déchets vont dans les arroyaux, en passant par les bouches des eaux pluviales. On a aussi cette poussière qui va s'envoler, se volatiliser dans l'air, là aussi. Un aspect au niveau des poussières. Donc c'est vrai que c'est l'environnement, la déconstruction, il y a quand même une belle gestion des déchets à prendre en compte pour limiter, on va dire, tous ces déchets qui vont partir un peu partout, quoi.
Vous étiez prêts à ça ? Vous étiez tous formés pour faire face à ce genre de situation avec autant de bâtiments à devoir traiter, à devoir démolir ? Ou est-ce que vous avez dû vous improviser un petit peu démolisseur ? Ça s'est fait comment ? Ça fait 4 mois maintenant.
En fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé de s'adapter, tout simplement. Et chacun a pris les précautions d'usage et a mis en place des combinaisons, des masques pour les salariés, parce qu'il faut protéger les salariés. De la brumisation ou de l'aspersion pour éviter que les poussières avec les métaux lourds s'envolent. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une obligation de moyens, une obligation de résultats. Et on met ça en face parce qu'on n'a pas le choix.
Une obligation de formation également. Vous avez dû former vos personnels aux différentes étapes.
Ben, pour nous, les étapes restent... Toute démolition ressemble à une autre démolition. Il y a une méthodologie qu'on applique de manière assez générale avec les employés ou avec l'équipement. Effectivement, ça demande certains équipements particuliers dont tu as parlé, Franck, pour abattre un peu les poussières, pour protéger les employés. Mais ça reste une démolition, entre guillemets, un petit peu normale pour nous. Il y a cette délibération qui vient un peu plus cadrer, et ça, c'est, on en remercie la province, parce que ça permet de donner vraiment un cadre réglementaire clair, ce qui n'était pas le cas avant ces événements. Mais en tout cas, c'est plus par le volume de travail à faire que, effectivement, là, on n'était peut-être pas suffisamment préparé et que ça va demander à investir peut-être un petit peu. Nous, on fait aussi travailler des sous-traitants, donc pour pouvoir répondre à tout ce volume-là. Voilà, c'est un peu la situation aujourd'hui.
Alors, on l'a dit, il y a plusieurs étapes à suivre avant d'arriver à la démolition proprement dite, ou en tout cas au démantèlement complet. Si un chef d'entreprise vous appelle, qu'est-ce que vous lui dites ? Par où il doit commencer ? Qu'est-ce qu'il doit faire quand son entreprise a été détruite par le feu et qu'il veut tout raser pour refaire quelque chose après ? Par quoi il doit commencer ? Qui il doit appeler d'abord ? Et quelles sont les premières étapes à franchir ? Sont les assurances ou...
La première étape, c'est forcément l'assurance, la déclaration à l'assurance qui va ensuite vérifier dans les contrats comment est couvert ce sinistre. Généralement, ce qu'on voit un peu sur tous les chantiers, c'est qu'il y a une clause justement sur les sinistres qui évalue l'enveloppe de déconstruction, de démolition à 5 à 10% de la valeur de reconstruction. Mais ensuite, généralement, les assurances font appel à des experts. Ces experts d'assurance vont prendre un petit peu le dossier en main et consulter les entreprises. Ou alors, on peut être aussi consulté directement par les propriétaires. Et ces informations-là vont remonter vers l'assurance, mais in fine, ça reste le client, le propriétaire, qui va décider avec qui il va travailler. Donc ça reste son choix, parce que ça reste sa responsabilité, ce qui va se passer chez lui.
Alors, ce n'est pas un secret, la plupart des entreprises qui ont été touchées se plaignent en général de l'assurance, des assurances. Ça traîne, c'est aussi le constat que vous avez pu faire les uns et les autres dans vos différents chantiers.
Oui, donc les assurances, bon, ils défendent leur beefsteak comme tout le monde, hein. C'est normal, hein, on peut comprendre. La seule chose aujourd'hui qu'on peut en voir, c'est que c'est une lenteur administrative qui est lente, et les cyclones, comme disait mon collègue tout à l'heure, arrivent fin d'année, donc il y aura déjà des mises en demeure par les communes. La Nouméa, par exemple, a mis déjà des gens en mise en demeure pour démanteler ou sécuriser leurs bâtiments. Donc ça, ça va être urgent. Et en même temps, on a aussi cette lenteur, peut-être voulue ou pas, ça je ne suis pas le juge de tout ça, c'est que peut-être faire tourner la pendule pour pouvoir avoir une aide de l'État en plus des assurances. Donc là, en tout cas, nous, on n'est pas là pour juger personne. La seule chose qu'on peut dire, surtout nous au niveau du cluster d'Acotred, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait que les leviers actionnent beaucoup plus vite pour sécuriser tous ces bâtiments et que tous ces déchets qui restent encore dans la nature, entre guillemets, parce que ces bâtiments, aujourd'hui, sont dans la nature, et éviter que ça continue à se dégrader et qu'on retrouve encore dans les arroyos tous ces déchets qui n'ont pas encore été enlevés des bâtiments, quoi.
Et puis les bâtiments en eux-mêmes, ils sont dangereux. On imagine si des gens viennent se promener ou essayer de chercher des choses,
tout
ça représente un véritable danger.
On a de toute façon aujourd'hui une obligation. Il faut savoir que dans les bâtiments au niveau sécuritaire, chaque responsable de bâtiment ou propriétaire doit sécuriser son bâtiment. Parce que si quelqu'un rentre dans le bâtiment et se blesse, elle peut porter plainte contre le propriétaire qui a été incendié. Donc vous voyez, c'est quand même complexe.
Une fois que les assureurs sont passés, qu'ils ont fait l'état des lieux, imaginons qu'ils soient prêts à payer, il se passe quoi ? C'est là que vous intervenez, vous, et vous commencez par quoi ?
Forcément, la première étape, c'est le diagamiante. Et là, je pense que Franck est mieux placé que nous, puisqu'il est un des désamianteurs agréés pour parler de ce sujet-là.
Franck-Olivier ?
Ah oui, effectivement, hein, s'il y a un sinistre et que le bâtiment est avant 2010, un diagnostiqueur immobilier vient... Il fait ses prélèvements, il les envoie en métropole, on reçoit les analyses. Mais entre-temps, il y a la sécurisation, comme disait Nadir. Il y a aussi l'affichage et l'information comme quoi c'est des bâtiments dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bâtiments qui sont désolidarisés. Et que faire un diagnostic sur une villa qui a les murs qui sont en train de tomber, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on est capable aussi peut-être de proposer une solution où on enlève la partie mouvante ou la partie qui risque de tomber, pour pouvoir faire rentrer le diagnostiqueur, pour pouvoir faire le prélèvement. Et aujourd'hui, il y a toute une phase de sécurisation en amont, non seulement pour le public, mais aussi pour les travailleurs, qui est indispensable. Et là, la sécurisation, je pense qu'il y a un beau marché aussi de haute que la démolition, qui est la sécurisation de tous les bâtiments sinistrés, avec fermeture des accès, voire du nettoyage, parce qu'aujourd'hui, ben, ça fait partie aussi du métier de démolisseur, de faire du curage en amont.
Et c'est un métier particulier, ça, de devoir sécuriser un bâtiment. Ou vous pouvez le faire, vous, dans vos différents... dans vos différentes activités ?
Généralement, enfin, pour notre part, on fait appel à la sous-traitance. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, faire des clôtures, fermer des bâtiments. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est spécialisé. Ce n'est pas là où on a une valeur ajoutée. Donc, on fait travailler le tissu économique local.
La phase suivante, c'est la récupération, ce qu'on disait tout à l'heure, de tout ce qui peut être le ou réutilisé ou jeté. C'est le tri.
Donc, la ferraille, MC, tout ce qui est cendre, agadji. Et tout ce qui est des filières réglementées, dans les filières réglementées. Mais on va dire c'est 80. Dans des bâtiments, c'est 50%, on va dire, peut-être, CEMC, parce qu'il y a beaucoup, tout dépend des bâtiments, s'ils sont en acier ou en béton. Mais sinon, c'est vrai que Gadji est un des gros récupérateurs de tout ce qui est déchets des incendies, quoi.
Et alors après, c'est la démolition proprement dite, c'est-à-dire vous enlevez tout ce qui reste, les murs, les structures les toits, les...
Alors, ce qu'on appelle le curage ou le déblaiement, on en revient à une petite subtilité sur les assurances, c'est-à-dire que généralement, le propriétaire du bâtiment n'est pas forcément l'exploitant, qui a lui-même son assurance pour le contenu du bâtiment. Et donc, généralement, il faut faire deux prestations différentes, et le déblaiement, c'est un peu l'étape suivante, d'enlever le contenu, quand c'est possible, bien sûr, hein, si le bâtiment est accessible. Dans le cas contraire, c'est fait différemment, mais quand c'est accessible, il y a une première étape de déblaiement qui est à la charge de l'exploitant ou du locataire. Ensuite intervient la déconstruction.
Et cette partie-là, tout ce que vous aurez déblayé, là, vous les mettez où ? C'est pareil, ça part à Gadji, ça part où ?
Ben, si en fonction de la nature de ce qu'on va déblayer, voilà, ça
vous
va...
Vous triez également ce que vous aurez déblayé.
Tout à fait.
C'est que du tri.
Combien ça coûte une opération comme celle-là ?
Ben, globalement, est-ce qu'on a un petit ratio ? C'est Gadji, c'est tout ce qui est cendre, issu de cendre, plastique qui a brûlé, le bois qui a brûlé, le mobilier qui a brûlé, c'est 38 750 francs la tonne à Gadji. C'est la partie la plus coûteuse au niveau de revalorisation des déchets.
Mais pour vous, pour vos entreprises, parce que vous avez beaucoup de travail quand même, vous devez trier, déblayer, etc. Pour une entreprise, ça s'évalue comment le coût de la démolition d'un bâtiment ?
Alors, on peut faire des ratios au mètre carré. Ça peut. Alors, je vais donner des prix, hein, mais c'est complètement subjectif. On peut être sur du 10 000 francs du mètre carré pour un simple curage jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de francs du mètre carré quand on a des grosses pollutions. Et quand on a des bâtiments où il y a des batteries, des produits chimiques ou autres, ben là, clairement, la facture va être salée. Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez 1 litre d'acétone dans une villa de 100 mètres carrés. Vous avez 1 000 litres d'acétone dans un bâtiment de 1 000 mètres carrés. Le ratio est le même, sauf que ben, la concentration à un endroit est beaucoup plus importante. Donc, on va peut-être aussi avoir un surcoût. La province sud qui contrôle les chantiers va aussi peut-être demander les analyses des déchets sur place qui vont entraîner une ventilation des déchets soit en déchets industriels banals, soit en déchets industriels spécifiques, spéciaux, voire en déchets dangereux. Et là, le déchet dangereux, on n'est plus à 40 000 francs la tonne, on est à 300 et quelques 000 francs la tonne. Donc aujourd'hui, l'estimation de la part de déchets dans un chantier, on était sur du 15-20% selon les chantiers, on est passé sur du 30-40% du coût d'une démolition dans un chantier.
Et alors, qu'est-ce qui paie ? Les assurances vont prendre en charge une partie de cette démolition ou c'est les entreprises elles-mêmes qui ont déjà perdu leurs locaux qui vont devoir trouver le moyen de financer cette démolition ?
Généralement, enfin pour les cas qu'on a eus, c'est les propriétaires qui demandent des acomptes aux assurances et qui commencent les travaux de démolition avec ces sommes-là. On a eu aussi un cas où c'est le propriétaire qui a avancé l'argent parce qu'il voulait accélérer le processus et il s'est débrouillé ensuite avec l'assurance. Et
souvent, on demande aujourd'hui, avant, parce qu'il y a eu un aspect avant, juste pendant l'aspect des incendies, aujourd'hui, les assurances sont beaucoup plus frileuses, prennent plus de temps. C'est-à-dire que ça va beaucoup moins vite parce qu'aujourd'hui, ils demandent un plan de reconstruction derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de démolir, il faut déjà présenter le plan de reconstruction. Donc ça aussi, c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les assurances cherchent de l'argent aussi. Quoi.
Aujourd'hui, il y a une bulle d'activité sur la déconstruction qui va être éphémère, hein, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de déconstruire rapidement pour reconstruire. Et aujourd'hui, si on doit se dire qu'il faut avoir confiance en pays et avancer, aujourd'hui, il faut vraiment que les assurances fassent le maximum pour qu'on puisse commencer à démolir, parce que ça a commencé, mais timidement, pour que derrière toute la chaîne du BTP puisse reconstruire. Donc on parle de 2 ans, 3 ans, mais si on attend encore, ça risque d'être prendre plus de temps. Donc vraiment, à mon avis, pour relancer l'économie sur le BTP et indirectement sur toutes les autres filières, c'est important de démarrer vite.
Parce que quand on parle de démolition, ça veut dire que vous laissez un terrain prêt à reconstruire, tout est prêt, le chef d'entreprise peut reconstruire des nouveaux locaux immédiatement, c'est le but.
Tout dépend. Aujourd'hui, il y a de la reconstruction, c'est-à-dire que par rapport aux assurances, aujourd'hui, il y a des... Moi, je viens de casser un bâtiment où la dalle, on devait garder la dalle, et aujourd'hui, la dalle, on la casse. Parce que, il y a eu des essais et la dalle est plus conforme. Donc, c'est vrai que là, à partir de là, là le bâtiment il va pouvoir être construit de A à Z. Il y a des bâtiments où on garde la dalle, voilà, susceptible d'être encore apte à accueillir un bâtiment. Mais si on change, faut pas changer la construction initiale. Si vous changez la construction initiale, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les gens vont peut-être construire en béton. Parce qu'on a bien vu que la ferraille, elle n'est pas aussi performante que ça.
Dès ça brûle bien, quoi.
Ça brûle très bien. Tandis qu'un mur béton, c'est un bon pare-feu, quoi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent reconstruire, mais différemment. Et ça, c'est bien cette relance économique pour nous. C'est-à-dire que moi, je parle au niveau d'Incotrade, du FCBTP. C'est-à-dire que ces gens sont en attente de cette relance économique, donc de la reconstruction. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir donner un souffle à l'économie du BTP aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
4 mois après, justement, on en est où? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà, beaucoup de chantiers qui ont déjà commencé. Certains envisagent déjà la reconstruction, ou est-ce qu'on en est encore à faire toutes les formalités dont vous parliez, les assurances, le tri
C'est très disparate, les situations des uns et des autres, mais pour moi, ça a commencé, je pense, timidement. On a fait énormément de devis, on a fait tout ce travail d'évaluation, de quantification, on a remis les devis, et sur les devis qui reviennent, on en a peut-être 10%. Tout le reste est encore en cours de traitement, en cours d'analyse. Parfois, il y a des situations difficiles entre experts d'assurés, experts d'assurance. Il faudrait effectivement, je suis d'accord avec Nadir, il faudrait pouvoir accélérer ça, parce que derrière ça, on parle de la déconstruction, mais derrière, il y a la reconstruction, et c'est ça le plus important. C'est faire repartir l'économie pour le BTP, mais après, les activités des gens qui étaient là pourront reprendre également.
L'objectif, c'est commencer la reconstruction dès 2025 ou même avant la fin de l'année. Vous estimez qu'il y a des chantiers qui pourraient être lancés?
Déjà, finir tout ce qu'il y a à déconstruire. C'est-à-dire que déjà, si on pouvait déconstruire 80% de ce qui a été brûlé, ça serait pas mal. Ça donne du travail. Justement, le problème, ce qu'il disait Hiro, aujourd'hui, on doit laisser personne au bord de la route. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, mine de rien, les gens sont du bâtiment, ils sont quand même assez solidaires. Ils se réunissent au sein d'un groupement pour donner du travail, un camion, une pelle à chacun. Même que le gars n'est pas déconstructeur, il n'a pas les assurances ou le professionnalisme, mais il peut s'insérer dans un groupement et mettre un camion, une pelle. Et ça fait partie du monde économique, parce que dans tout ça, c'est le monde économique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut sauver, on veut sauver nos entreprises, mais on veut en plus sauver celles qui sont déjà en train de mourir. On ne doit pas laisser mourir cette petite entreprise calédonienne, quoi.
Justement, vous parliez de la bulle, d'une bulle de déconstruction, là, pour l'instant. Vos différentes entreprises, elles ont souffert, elles aussi, de cette crise qu'on subit depuis 4 mois. Où est-ce que ça a créé de nouvelles opportunités, de nouveaux développements? Vous avez peut-être embauché les uns et les autres? Donc, comment ça s'est passé?
Pour nous, notre situation au niveau de EMC, on a eu 3 mois où on a eu quasiment 50% de baisse d'activité. Ce qui paraît logique, puisque en fait, les déchets sont la conséquence d'une activité économique. Quand l'activité économique s'arrête, les déchets s'arrêtent aussi. Donc ça a été une situation un petit peu difficile. On a pu maintenir les emplois, on a travaillé sur des stocks qu'on avait à traiter, etc. Mais on sent un petit redémarrage là depuis 2-3 semaines sur les volumes de déchets apportés qui sont justement liés à la déconstruction, au déblaiement des entreprises. C'est ce qui va faire en tout cas pour notre part un petit peu le relais jusqu'au redémarrage effectif de l'ensemble.
Et vous, Franck Olivier, comment ça se passe?
En fait, on a eu un arrêt de 3 semaines, effectivement, en dommage collatéral. On a la chance de ne pas avoir été détruit, de ne pas avoir été sinistré. Et après, on a eu des chantiers qui ont été arrêtés aussi pendant un mois. Donc, on est à peu près à 2 mois d'arrêt et d'impact. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des institutions qui nous ont réouvert les chantiers. On a aussi des marchés privés qui ressortent et qui sont complètement... va dire, décorrélée des bâtiments sinistrés. Et on a quelques chantiers qui sortent. Mais aujourd'hui, la tendance n'est pas à embaucher, mais plutôt à maintenir l'emploi. Aujourd'hui, il vaut mieux travailler avec une équipe, et même si elle est renforcée par des CDD, qui soit stable et qui permette de travailler sur du court terme, plutôt que de prévoir sur du long terme, parce qu'au bout du compte, ça ne sera jamais du long terme. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas dans combien de temps on aura les chantiers qui vont démarrer. Et clairement, si je peux lancer moi vraiment un appel, c'est merci à ceux qui ont décidé de démolir en fonds propres, en attendant les assurances, parce qu'on est plus ou moins dans ce cas-là en ce moment. Et si les assurances peuvent un peu accélérer les choses, ça permettrait vraiment de donner un boost économique, même pour nos entreprises, pour l'emploi, pour les sous-traitants et les partenaires. Je pense que c'est important.
Du côté d'Acotred ?
Du côté d'Acotred, moi, je vais parler au nom de ma société BTB Boufnech. C'est vrai qu'on a eu un petit peu un arrêt juste après les émeutes. La chance, et là, je tiens à remercier quand même l'État, parce qu'on a pu participer à la cellule d'éblaiement, parce que ça fait partie de notre boulot, hein, comme quoi on a pu faire partie de toutes les carcasses, nettoyer les routes, et tout ça, ça nous a donné un souffle d'air pendant ces 3 mois. Et ça, je tenais quand même à remercier l'État, parce que ça a sauvé quelques entreprises cadoniennes, et il ne faut pas avoir honte de le dire, l'État a bien joué, nous a bien aidé, les entreprises cadoniennes, dans cette phase. Aujourd'hui aussi, il y a un petit message que je tenais à dire, allez, aujourd'hui, sur ARB, c'est qu'à chaque fois quand même qu'Acotred a participé à une visite de chantier dans des bâtiments qui ont été incendiés ou détruits, c'est vrai que c'est avec beaucoup de tristesse, hein, parce qu'avant d'aller voir les clients, moi je sais que j'avais les larmes aux yeux à des moments, parce que les gens avaient travaillé pendant 40 ans, 50 ans sur des bâtiments, et quand tu rentres, ils nous expliquent, ben là j'ai posé mon petit bas, c'est moi qui a fait ci, puis qu'ils n'ont plus rien, c'était très dur. Et même ensuite, faire un devis pour ces gens-là, c'est pas facile, parce que c'est prendre de l'argent à des gens qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu. Et c'est vrai que moi, je tenais à dire un gros soutien à tous ces gens qui ont perdu tout et qui ont la volonté de reconstruire. Comme disait mon copain à côté, il faut les encourager à reconstruire. Et puis, on doit être solidaire dans cette phase de reconstruction.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci pour nous avoir éclairés sur ce marché de la démolition. Mais on a bien compris, ça précède la phase de reconstruction dans laquelle vous allez tous également être engagé demain. Merci d'avoir participé à ce jeudi de l'économie.